une histoire.
Salut à vous toutes et à vous tous, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires. Et aujourd'hui, bien, j'ai décidé de continuer ma série. Ce serait dommage de s'arrêter en si bonne route des contes et légendes du roi Arthur. La semaine dernière, nous découvrions eh bien, la jeunesse d'Arthur, justement. Et là, bien, nous allons continuer avec le deuxième chapitre, que l'épée dans le rocher. Que c'est le demi-frère hein, d'Arthur, mais ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure de ces histoires magnifiques. Allez. Alors le monde était vaste et les jeunes gens rêvaient de gloire. Que ne dérogeait pas à la règle. Il avait été adoubé et désirait entreprendre moult au fait. Chevaucher au nord, s'amouracher au sud, combattre au levant et ripailler au ponant. Avant de voyager ainsi, il espérait briller au grand tournoi organisé pour la nouvelle année. Les festivités attiraient une foule immense cette année-là, car Uther Pendragon venait de mourir sans laisser d'héritier, et tous s'interrogeaient sur l'avenir du royaume de Bretagne. Quelques-uns des ducs aux barons espéraient pouvoir s'imposer et prendre la succession. Tous, des paysans aux mendiants, redoutaient une nouvelle guerre si un monarque n'était pas désigné. Que avait voyagé plusieurs jours vers la ville, en compagnie de son père et de son moins que rien de frère, Arthur. D'ailleurs, ce gringalet de 16 ans n'était pas son frère véritable, il se le répétait. Son père l'avait recueilli bébé après qu'un sorcier nommé Merlin l'eût déposé chez eux. Aujourd'hui, Que était chevalier, l'autre simple écuyer. Lui allait vivre des aventures de par le monde, l'autre demeureux et au manoir familial, à nourrir les cochons. Cette pensée gonflait son cœur de joie. Jamais Que n'avait vu une telle cité, sainte de puissants remparts, et peuplé d'une masse innombrable. Mais le jeune homme ne voulait pas paraître impressionné. Il faisait avancer lentement sa monture avec un visage triste qu'il tentait de rendre redoutable aux yeux des chevaliers dont il pourrait croiser la route. Cependant, quand ils débouchèrent sur la place de la cathédrale, il ne put retenir son étonnement. Sur le parvis de l'édifice se dressait un rocher, haut comme une maison. Au sommet, une épée était plantée dans la pierre jusqu'à la garde. La populace se pressait autour de ce promontoire incongru. Rien ne s'élevait ici. Quelle sorcellerie se cache derrière cette apparition, s'inquiétait un moine accompagné de son âne. On raconte partout dans les rues que celui qui ôtera l'épée de la pierre sera le nouveau roi de Bretagne, ajouta un garçon qui portait des cages à poules sur son dos. Antor tira ses deux fils de la contemplation de ce prodige. Il fallait se rendre à l'auberge pour y déposer leur barda avant que la cloche n'appelle les fidèles pour la messe. Thank you. Quand ils revinrent tous trois sur la place, plus de monde encore se pressait au pied du monticule. Tous les ducs, barons, chevaliers s'étaient réunis. Chacun estimait l'épreuve facile et voulait prendre l'arme le premier. On faillit en venir aux mains et l'évêque dut intervenir pour éviter un bain de sang. L'homme d'église déclara que l'on procéderait après l'office, en appelant un à un, par ordre de noblesse, ceux qui aspiraient à extraire la lame de la pierre. Une fois la messe dite, les personnages de haut rang gravirent le roc pour empoigner l'épée et tenter leur chance. Aucun ne parvint à faire même osciller le fer dans sa gangue. Les uns après les autres, ils saisissaient le pommeau, d'abord avec solennité, puis avec perplexité, pour finir par perdre toute superbe et tirer sur le manche dans les postures les moins gracieuses. Pour autant, personne n'osa moquer aucun des malheureux candidats. Au contraire, tous faisaient silence, impatients de savoir si un roi serait désigné. Seul un oiseau perché sur le bord d'un toit ne cessait de piailler comme s'il riait de bon cœur. « Que ?» remarqua l'animal avec étonnement, d'autant plus qu'il s'agissait d'un rouge-gorge par la forme et la taille, mais au blanc plumage. Bientôt il ne prit plus garde à l'hilarité du volatile, car tous les ducs et barons avaient échoué. On appela les chevaliers de moindre rang. Aucun n'eut plus de succès. L'épée ne voulait pas bouger. Le tour des plus jeunes arriva. Que était le dernier adoubé et donc le dernier dont l'évêque annoncerait le nom. À présent, il commençait à se rêver en roi. Il serait un chef de guerre redoutable. Nul ne l'arrêterait. Il irait prendre Rome avec son armée. Rien de moins. Et il donnerait à cet imbécile d'Arthur le titre de bouffon. Rien de plus. Que escalada le monticule. Les hommes rassemblés retenaient leur souffle. S'ils ne réussissaient pas l'épreuve, la Bretagne se retrouverait sans souverain. Tous faisaient silence, même le rouge-gorge. Blanche-gorge serait plus exact, s'était tu. Que plaça sa main sur le pommeau. Il imagina un instant la lame coulisser dans la fente rocheuse en une gerbe d'étincelles. Les vivas de ses sujets, la fierté de son père, le désappointement de son frère. Sauf que l'épée demeura immobile. Il l'empoigna des deux mains, tira de toutes ses forces, s'arc-bouta, souffla comme un bœuf. Rien à faire. Pour finir, la poignée de l'arme lui échappa des mains et il partit en arrière pour dévaler la pente sur les fesses. En temps normal, sans doute aurait-on ri de sa chute, mais tous étaient trop préoccupés. L'épée n'avait rien désigné, aucun héritier à la couronne. Malgré tout, que se sentait honteux et ridicule. Il pesta, jura, rejoignit son père et son frère la tête basse. Un sentiment de colère montait en lui, il voulait frapper quelqu'un pour se défouler. Ainsi, sans aucun avertissement, il cogna de son gantelet de métal l'épaule de son cadet. « C'est ta faute, aboya-t-il méchamment. Que ? Tu es injuste, intervint Antor. Arthur n'est pas responsable de ton échec. Seule l'épée peut choisir qui est digne de la posséder. » La multitude se dispersa, déçue. Les plus échauffés voulaient régler la question de la succession dans le sang et se dirigeaient vers une des portes de la ville. L'évêque, inquiet pour la paix dans la cité, proposa d'organiser sur le champ la première joute du tournoi. Il espérait ainsi calmer les chevaliers en leur offrant un combat. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Que se réjouit comme les autres. C'était là sa chance. Il devait participer à cette passe d'armes. « Écuyer, va quérir mon épée à l'auberge. Je suis ton frère, s'indigna Arthur. Pour moi, tu n'es qu'un écuyer. Si par ta faute je manque la joute, je te taillerai en pièces. File !» Arthur voulait éviter de subir un nouvel assaut fraternel. Il s'élança chercher ce qu'on lui demandait. Pendant ce temps, que, accompagné de son père, descendait rejoindre les autres concurrents. Il allait pour la première fois combattre en tant que chevalier. Oublier les entraînements avec les épées de bois contre ce nabot d'Arthur. Les coups seraient réels et les adversaires aguerris. Il pouvait mourir, perdre une main ou un œil. Il eut alors réellement conscience de son jeune âge. Son menton ne se recouvrait pas encore de barbe et son armure rutilante montrait par son éclat qu'elle n'avait jamais essuyé d'attaque. Une fois les remparts franchis, le public se plaça en cercle autour des volontaires pour le premier échange du tournoi. Il s'agirait d'une mêlée où les hommes seraient à pied, car chacun voulait en découdre au plus vite sans perdre de temps à chercher des montures. Que étudia ses adversaires. Chez lui, il était le plus grand. Il dépassait son père d'une tête et Arthur de deux. Mais ici, au moins deux des chevaliers dans le cercle surpassaient largement en taille. Son estomac se noua et sa langue s'assécha. Il avait peur.
Thank you.
Les écuyers armaient leurs champions et l'évêque allait bientôt donner le signal du combat. Arthur, lui, n'était toujours pas revenu. Cet avorton l'entendrait s'il arrivait en retard. À présent, Queux était le seul désarmé et l'impatience grandissait parmi le public comme parmi les participants. Il allait renoncer et indiquer de commencer sans lui quand il aperçut Arthur qui cherchait à fendre la foule. Queux saisit l'arme avec satisfaction, mais non sans offrir un regard courroucé à son cadet pour le blâmer de sa lenteur. L'évêque leva la main pour donner le signal, mais une voix pleine d'autorité retentit dans l'assemblée. « Attendez ! Est-ce que ton épée que tu brandis là, jeune chevalier ?» Le roi Lot venait de parler. Il était parmi les seigneurs les plus puissants de Bretagne. Queux mit un moment à comprendre que l'homme s'adressait à lui. Il n'avait pas fait attention à l'arme tendue par son frère. Quand il y porta le regard, il se figea sur place. « L'épée du rocher ! Comment une telle merveille était-elle possible ? Allait-il devenir roi ? J'ai retiré la lame de la pierre, clama-t-il en la levant en haut par-dessus sa tête. » « D'un oiseau, Rayalotte. Je t'ai vu tout à l'heure, tu as échoué comme nous tous pour finir le cul dans la boue. Oseriez-vous traiter votre roi de menteur, tant à queue avec aplomb ? S'il dit vrai, il n'a qu'à remettre l'épée dans la roche et la reprendre, proposa l'évêque pour calmer les esprits. » Ainsi, tous regagnèrent la cathédrale. Queue replaça la lame dans la pierre avec facilité, mais resta incapable de l'en extraire. Le roi Lot, agacé, le poussa pour empoigner le pommeau. L'arme ne bougea pas plus. Alors un prodige eut lieu. L'oiseau à la gorge blanche se posa à côté d'eux et se transforma en un vieil homme à la barbe longue et au regard sévère. Dans la foule, le nom de Merlin se murmurait avec crainte. « Cessez vos enfantillages !» tonna le sorcier. « Arthur, mon garçon, monte nous rejoindre ici !» Disant ces mots, il fit signe au frère de queue. L'adolescent, rouge de timidité, escalada le rocher. Merlin lui demanda s'il avait pris l'épée. Arthur s'en excusa, il ne voulait faire de tort à personne. Le sorcier eut un sourire et lui proposa de la tirer à nouveau de la pierre pour montrer à tous qu'un nouveau roi de Bretagne était désigné. Il obéit et sans le moindre effort fit jaillir la lame hors de sa gangue. La stupeur était générale. Ce jeune garçon, pas même adoubé, venait de réussir là où tous avaient échoué. Jamais que ne ressentit plus de haine pour son cadet qu'à ce moment. Il avait manqué la joute, s'était ridiculisé par deux fois, et à présent son frère l'éclipsait aussi facilement qu'un nuage masque la lune. Lot devint fou de rage, ne tolérant pas qu'un marmot puisse devenir roi à sa place. Il tira son épée de son fourreau et s'apprêtait à pourfendre Arthur, mais que fut le plus rapide. Il n'était pas armé, mais s'interposa avec courage pour saisir la lame du traître avec ses gantelets en maille de fer. D'un geste puissant, il fit plier genou à l'agresseur avant de le jeter en bas du rocher. Humilié, Lot rassembla ses hommes. Il jura que jamais il ne laisserait un simple écuyer régner sur la Bretagne et quitta la ville avec fracas. Certains le suivirent, d'autres se rallièrent au nouveau monarque. Queux était en proie au plus grand trouble. Il venait de risquer sa vie pour Arthur alors qu'il le haïssait. Il comprit alors son erreur. Il avait toujours su au fond de lui que son cadet lui était supérieur en tout et il l'avait détesté pour cette raison. À présent, Arthur n'était plus son frère mais son suzerain. Il n'y avait plus de rivalité possible entre eux. Le jeune chevalier se tourna vers Arthur et posa genoux à terre pour montrer son allégeance. Tous l'imitèrent, même en tort, bien qu'Arthur lui eût demandé de ne point le faire. Un seul se tenait encore debout aux côtés du nouveau roi, Merlin. Le vieil homme clama. Une voix forte pour que tous entendent par-delà même les murailles de la cité. Je vous présente Arthur. Arthur Pendragon, fils caché d'Uther Pendragon et roi de Bretagne. Aujourd'hui, nous avons vécu le célèbre épisode de l'épée dans le rocher. On se retrouve à la semaine prochaine bien pour continuer les aventures du roi Arthur dans un bouquin paru chez Locus Solus, Contes et légendes du roi Arthur de Tristan Pichard. Allez, ciao, bye bye. C'était Doé qui vous racontait des histoires.